Ce matin, au Radio-Journal, au Proche-Orient, les craintes d'une escalade ne faiblissent pas.
On ne veut pas qu'il y ait une riposte à la riposte.
Israël promet une riposte et l'Iran compte y répondre. La sélection du jury pour le procès criminel de Donald Trump se poursuit aujourd'hui à New York. Et le gouvernement Trudeau dépose son budget à Ottawa. Les attentes sont élevées.
Au minimum, ça nous prend un plan pour retourner à l'équilibre financier.
Plus gros est le déficit, plus longtemps qu'on va voir qu'il va y avoir des mesures de restriction.
Surtout, à combien s'élèvera le déficit? Bonjour, ici Naïla Bendali. Le cabinet de guerre d'Israël se réunit encore une fois aujourd'hui pour discuter de la riposte que l'armée israélienne veut mener contre l'Iran. Le monde redoute un affrontement entre les deux pays. La République islamique a été bien claire ce matin. La moindre réplique de l'État hébreu à son attaque de la fin de semaine va entraîner une riposte des forces iraniennes. Jean-Philippe Robillard fait le point.
Le président iranien a haussé le ton. Il a déclaré que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. C'est également ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères.
Si le régime israélien commet une erreur, cette fois, la réponse de l'Iran, comme l'ont annoncé les commandants militaires iraniens, ne sera pas minime, mais immédiate et sévère.
En Israël, le cabinet de guerre se réunit encore une fois aujourd'hui pour discuter à nouveau d'une éventuelle riposte contre l'Iran. C'est la cinquième fois qu'il se réunit depuis la fin de semaine, depuis l'attaque de Téhéran. Hier, il y a l'état-major de l'armée israélienne qui a affirmé qu'il y a une riposte qui se prépare et que l'armée va lancer son attaque au moment qu'elle choisira. Mais on n'a pas plus de détails pour le moment, pour l'instant. Il y a également le ministre des Affaires étrangères d'Israël qui appelle ses homologues de 32 pays, dont le Canada, à prendre des sanctions contre le régime de Téhéran. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.
Et puis la Chambre des représentants des États-Unis va tenir cette semaine deux votes séparés au sujet de l'aide financière pour l'Ukraine et Israël. Les deux enveloppes budgétaires faisaient initialement partie de la même proposition, mais plusieurs républicains s'opposent à fournir davantage d'aide à l'Ukraine. La proposition est donc bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. La sélection du jury se poursuit au deuxième jour du procès criminel de Donald Trump à New York. L'ex-président américain est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice de film porno afin d'acheter son silence. Les précisions de Frédéric Arnould.
Pendant la première journée du procès, aucun juré n'a encore été sélectionné. Il faut dire qu'hier, une bonne partie de cette journée a été consacrée à l'examen de motions déposées par les avocats de Donald Trump, dont certaines, comme la demande de récusation du juge dans cette affaire, ont été refusées. Mais dès ce matin, ce sont des dizaines d'autres candidats jurés qui vont se succéder dans la salle d'audience et qui seront questionnés sur leur personnalité ou encore leur penchant politique. Mais surtout, s'ils estiment qu'ils seraient capables de faire abstraction de leurs préjugés à l'endroit de l'ex-président. Une fois cette étape complétée, le procès devrait alors durer de 4 à 8 semaines, pendant lesquelles on s'attend à voir comparaître Stormy Daniels, qui aurait reçu un paiement de 130 000 $ pour acheter son silence à la veille de la campagne présidentielle de 2016. L'autre témoin vedette sera Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, qui se serait occupé de la transaction. Trump et son entreprise auraient alors tenté de maquiller par des astuces comptables ce fameux remboursement. Le jury pourrait livrer son verdict aux alentours de la mi-juin. La décision du juge sur la sentence en cas de verdict de culpabilité serait alors connue quelques semaines plus tard. Peu importe l'issue, ce procès sera le premier à être complété avant les élections de novembre. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à New York.
À Ottawa, le budget que va déposer cet après-midi la ministre des Finances, Chrystia Freeland, recèle peu de secrets après trois semaines d'annonce au coût de plusieurs milliards de dollars. Le suspense réside plutôt dans l'ampleur du déficit. Les partis d'opposition s'attendent à être déçus. Les précisions de Valérie Gamache.
Ce budget devrait être marqué par un déficit plus élevé que prévu. Début mars, le directeur parlementaire du budget évaluait que le déficit augmenterait pour atteindre 46,8 milliards de dollars pour 2023-2024. Cela dépasserait les prévisions du gouvernement qui étaient de 40 milliards de dollars à l'automne. Le gouvernement Trudeau n'a par ailleurs jamais présenté de budget équilibré ni de plan au retour à l'équilibre budgétaire. Ça ne risque pas d'arriver cette fois non plus, puisque les annonces des trois dernières semaines représentent à elles seules de nouveaux investissements de près de 20 milliards de dollars. Il y aura évidemment un accent sur le logement, Pour Justin Trudeau, ce budget doit être le budget de l'équité entre les générations.
Notre économie doit récompenser les efforts des jeunes générations, comme c'était le cas pour les générations passées. Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie. On veut qu'ils aient la confiance nécessaire pour investir en eux-mêmes, en leur avenir. On veut leur redonner l'optimisme et les possibilités que leurs parents et leurs grands-parents ont connu.
Les partis d'opposition s'attendent déjà à être déçus. Les conservateurs cherchent des exemptions à la taxe carbone. Ce n'est pas dans les plans. Le Bloc québécois demande des droits de retrait avec pleine compensation pour tous les programmes qui empiètent sur les compétences des provinces. Ce n'est pas prévu. Et le NPD, dont plusieurs souhaits ont déjà été exaucés, notamment en ce qui a trait à l'assurance médicaments, aimerait voir le gouvernement taxer davantage les profits des grandes entreprises. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Léger rebond de l'inflation au pays, l'indice des prix à la consommation est passé sur un an de 2,8 % en février à 2,9 % le mois dernier. Les prix de l'essence, du logement et des services ont contribué à cette hausse d'un dixième de point. Le manque de ressources spécifiques et de nombreux stéréotypes liés à l'âge bloquent l'accès au marché de l'emploi pour les travailleurs les plus âgés. C'est ce que met en lumière une étude réalisée en Alberta, où le taux de chômage des 55 ans est légèrement supérieur à la moyenne. Les précisions de Tiffany Roquette.
Parmi les 17 organismes qui offrent de l'aide à l'emploi dans le centre de l'Alberta, seuls deux ont des ressources dédiées aux adultes de 55 ans et plus. C'est ce que souligne une étude sur les stratégies d'emploi lancée par le centre de ressources pour aînés Golden Circle et la chambre de commerce de Red Deer. Pour la directrice du centre, Amber Mack, ce manque de ressources est problématique parce que les travailleurs plus âgés ont des besoins spécifiques, comme valoriser leur expérience sur un CV. L'étude montre que les demandeurs d'emploi ont exactement les compétences recherchées par les employeurs, mais les perceptions liées à l'âge freinent le recrutement. Les demandeurs de 55 ans et plus rapportent être vus comme mal adaptés et en fin de carrière. Le PDG de la Chambre de commerce de Red Deer, Scott Robinson, a été surpris de voir à quel point peu d'entreprises envisageaient de recruter des travailleurs plus âgés. Il pense pourtant que ce serait une solution à la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Le rapport recommande d'accroître les ressources pour les 55 ans et plus et d'établir un point de contact entre employeurs et demandeurs d'emploi. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada, Calgary.
Une jeune femelle épaulard est toujours coincée dans un lagon de l'île de Vancouver où elle s'est retrouvée il y a 3 semaines. Jusqu'à présent, toutes les tentatives pour la sortir de là et la relâcher dans l'océan pour qu'elle retrouve son groupe familial ont échoué. L'opération demande de la stratégie, de la logistique et beaucoup de patience, comme l'explique Emma Hautecoeur.
La petite chasseuse courageuse est encore en santé à l'heure actuelle, selon le chef Simon John de la Première Nation, Iyatisset. Mais le chef n'est que trop conscient que le temps est compté, puisque son bien-être est en jeu. Il en prend d'ailleurs une grande part de responsabilité. La baleine plonge pour de longues périodes, elle est très active et s'est vite adaptée pour déjouer les stratégies déployées pour la capturer vendredi. Elle a mangé un oiseau, dit Paul Cottrell, de Pêche et Océan Canada, et des poissons et des phoques nagent dans le lagon. Mais qui sait si elle mange à sa faim? L'équipe a appelé en renfort des experts pour préparer le déploiement d'une seine, un large filet pour l'encercler et l'isoler dans une partie moins profonde du lagon. Mais une seconde opération n'entrera pas en jeu avant de s'être assurée qu'elle ne sera pas dangereuse pour l'animal.
Gentil jusqu'à un certain point. Mais si vraiment ils vont essayer, il va falloir, à mon avis, qu'ils soient un peu plus agressifs.
Fort est de constater qu'il faut changer de stratégie, selon Andrew Trites, directeur de l'unité de recherche des mammifères marins à l'Université de la Colombie-Britannique.
C'est pour son bien.
Ici Emma Hautecoeur, Radio-Canada, Vancouver.
Et puis, un film canadien est sélectionné à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Il s'agit du long-métrage « La langue universelle » du cinéaste montréalais originaire de Winnipeg, Matthew Rankin. Le film se déroule justement entre Montréal et la capitale manitobaine. Voilà, c'était le Radio-Journal. Ici Naïla Bendali. Bonne journée.